Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nine Art Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre publié en 2011, Changer le monde, tout un programme est un essai de Jean-Marc Jancovici consacré aux liens matériels entre énergie, économie et dérèglement climatique. Ingénieur, enseignant et consultant spécialisé dans les questions carbone, son auteur aborde ces enjeux avec une grille issue de la physique. Le livre conteste une idée centrale des politiques économiques contemporaines. Le retour durable de la croissance serait possible sans examen des ressources énergétiques qui rendent la production, les transports et les services possibles. Jancovici soutient que les économies industrielles restent structurellement dépendantes des combustibles fossiles, dont les contraintes physiques et climatiques limitent les promesses de continuité. Son propos ne se réduit donc pas au diagnostic climatique. Il esquisse un programme de transformation collective vers une économie décarbonée, concernant autant les infrastructures que les activités professionnelles, les modes de vie et les institutions. Volontairement direct et polémique sur certaines options énergétiques, cet essai cherche à replacer les choix publics devant les limites concrètes du carbone et de l'énergie. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, l'énergie comme fondement physique de toute activité économique. Le point de départ du livre consiste à traiter l'économie non comme un système abstrait de prix, de monnaie et de décisions individuelles, mais comme un ensemble de transformations matérielles. Produire un bien, bâtir un logement, déplacer des personnes, cultiver, soigner ou faire fonctionner des réseaux suppose de mobiliser de l'énergie. Cette évidence physique permet à Jancovici de contester la vision selon laquelle la prospérité peut être analysée indépendamment des ressources qui alimentent les machines, les infrastructures et le travail humain. Les sociétés industrialisées ont disposé, surtout grâce aux combustibles fossiles, d'une énergie concentrée, abondante et facilement transportable. Cette disponibilité a soutenu une expansion considérable des échanges, de la mécanisation et de la productivité. Mais elle crée aussi une dépendance profonde. Lorsque l'accès à cette énergie se renchérit ou se fragilise, les effets dépassent le seul secteur énergétique, coût de production, mobilité, alimentation, emploi et finances publiques sont concernés. La force analytique de ce cadre est de rappeler que les contraintes énergétiques ne se négocient pas par décret. Les institutions peuvent répartir les coûts et organiser les priorités, mais elles ne peuvent supprimer les rendements, les stocks ou les besoins matériels. Le livre invite ainsi à examiner toute promesse économique à partir de son socle énergétique réel. Deuxièmement, la croissance fossile et le risque récurrent de chocs pétroliers. Jancovici présente la recherche de croissance dans une économie mondiale dépendante des énergies fossiles comme une dynamique contradictoire. Une reprise vigoureuse augmente les besoins de transport, de production industrielle et de consommation. Si cette demande progresse alors que les ressources les plus accessibles deviennent plus difficiles ou plus coûteuses à exploiter, la tension sur les approvisionnements s'accroît. La hausse des prix énergétiques agit alors comme un frein général, elle réduit le pouvoir de dépense, alourdit les coûts des entreprises et peut désorganiser les secteurs les plus dépendants du pétrole. Le raisonnement ne prétend pas que chaque ralentissement économique possède une cause unique. Il affirme plutôt que l'énergie constitue une condition trop souvent oubliée des trajectoires de croissance. Dans ce cadre, espérer restaurer indéfiniment le modèle antérieur revient à accélérer les mécanismes qui en révèlent la vulnérabilité. Cette critique vise également les politiques qui évaluent leur succès presque exclusivement à partir de la croissance du produit intérieur brut. Selon la perspective du livre, une politique réaliste doit tenir compte de la disponibilité énergétique, de la dépendance aux importations et des émissions associées aux activités. La question devient moins celle du redémarrage à tout prix que celle de la réorganisation d'une économie capable de fonctionner avec beaucoup moins de carbone. Point troisièmement, une décarbonation qui transforme habitat, alimentation, mobilité et emploi. Le projet proposé ne se limite pas au remplacement de quelques centrales ou au changement de carburant des véhicules. Jancovici insiste sur le caractère transversal de la contrainte carbone. Les émissions sont inscrites dans la localisation des logements, la qualité thermique des bâtiments, les chaînes agricoles, les habitudes alimentaires, la taille des sites industriels et la fréquence des déplacements. Elles influencent aussi les métiers, les services publics, les dispositifs de santé et les mécanismes de retraite, parce que tous dépendent indirectement de flux matériels et énergétiques. Cette ampleur donne au livre sa portée politique. La décarbonation exige des arbitrages collectifs sur les infrastructures et sur la répartition des efforts, pas seulement une addition de choix individuels. Réduire la dépendance au carbone implique par exemple de privilégier des bâtiments moins énergivores, des mobilités moins tributaires du pétrole et des procédés industriels adaptés à des ressources contraintes. Cela demande du temps, des investissements et une coordination publique, car les équipements structurent les comportements sur plusieurs décennies. L'auteur refuse donc les réponses symboliques qui laisserait inchangée l'organisation générale de la société. Son programme soulève des débats légitimes sur les moyens, mais son idée directrice demeure nette, les politiques climatiques doivent être pensées comme une transformation du système productif et social entier. Quatrièmement, le débat sur les renouvelables, le nucléaire et les limites du stockage, une partie distinctive de Changer le monde, porte sur le choix des moyens de production électrique. Jankovici critique les attentes plates dans l'éolien et le solaire lorsqu'elles sont envisagées comme solutions simples et immédiatement substituables aux combustibles fossiles. Son argument s'appuie sur leur production variable. Le vent et l'ensoleillement ne coïncident pas nécessairement avec la demande, ce qui impose de considérer les réseaux, les moyens de secours, les interconnexions et le stockage. Le livre souligne ainsi que la puissance installée ne renseigne pas à elle seule sur la capacité à fournir de l'électricité au moment voulu. Il défend le nucléaire comme une option de transition à perfectionner et à développer en raison de sa production pilotable et faiblement carbonée en exploitation. Cette position constitue un marqueur fort de son approche et explique le ton combatif de certains passages. Elle ne dispense pas de discuter les enjeux de sûreté, de déchets, de coûts, de délais et d'acceptabilité qui font partie du débat énergétique réel. Toutefois, le raisonnement du livre oblige utilement à examiner un système dans son ensemble plutôt que chaque technologie isolément. Une stratégie bas carbone doit articuler sobriété, efficacité, réseau, production disponible et gestion des intermittences. Au lieu de présumer que toute électricité renouvelable possède automatiquement les mêmes fonctions qu'une énergie fossile ou pilotable. En dernier lieu, la contrainte carbone comme principe de décision publique et de justice collective. Pour Jankovici, la contrainte carbone ne constitue pas une préférence politique facultative, mais une réalité imposée à la fois par le climat et par la dépendance énergétique. Le choix porte donc moins sur la nécessité de changer que sur la manière de le faire de façon anticipée, organisée et équitable, ou sous la pression de crise de prix, de pénurie et de dérèglement climatique. Cette distinction conduit le livre à défendre des instruments capables d'orienter durablement les décisions, notamment la taxe carbone. Le principe est de rendre visible dans les prix une partie du coût collectif des émissions, afin de favoriser les choix moins carbonés et de financer ou accompagner la transition. Mais un tel outil ne peut être jugé seulement sur son élégance théorique. Il affecte différemment les ménages selon leur logement, leur territoire, leurs revenus et leurs possibilités de transport. Il exige donc des compensations et des alternatives concrètes pour éviter que la transition ne frappe prioritairement ceux qui disposent du moins de marge de manœuvre. Le livre se distingue par son refus de séparer écologie et organisation sociale. La transformation concerne les politiques fiscales, industrielles et territoriales, ainsi que la coopération européenne et les priorités collectives. Il pose une question exigeante : comment préserver les fonctions essentielles de la société dans un cadre énergétique et climatique plus contraint, sans entretenir des promesses matérielles irréalistes ? En conclusion, Changer le monde intéressera en premier lieu les lecteurs qui souhaitent comprendre pourquoi le climat ne peut être traité comme un dossier environnemental isolé. Il est particulièrement utile aux étudiants, aux responsables publics, aux professionnels des entreprises et aux citoyens désireux de relier les débats sur la croissance, le pétrole, les transports et la production électrique. Son apport intellectuel tient à une méthode de lecture des problèmes à partir des flux d'énergie et de matière avant de discuter les objectifs économiques. Cette perspective rend plus visibles les dépendances que les indicateurs financiers seuls peuvent masquer. Sur un plan pratique, le livre aide à poser de meilleures questions devant une politique climatique. Quelle énergie remplace quoi, à quel rythme, avec quelles infrastructures et pour quels usages prioritaires? Il ne fournit pas une recette consensuelle. Ses jugements sévères sur le solaire et l'éolien, ainsi que sa défense du nucléaire, appartiennent à un débat technique et politique qui doit aussi prendre en compte les évolutions technologiques, les coûts et les contextes nationaux. Néanmoins, sa spécificité est précisément de ne pas présenter la transition comme une simple juxtaposition de gestes verts. Par rapport à de nombreux essais écologiques centrés sur la sensibilisation ou les comportements individuels, il propose une vision systémique, structurée par les contraintes physiques et par les choix d'organisation collective. Cette cohérence, alliée à un ton direct, en fait une lecture marquante pour qui accepte de confronter les promesses de croissance aux limites énergétiques et climatiques. Si vous souhaitez soutenir Jean-Marc Jankovici, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt!